esprits, sorcellerie, es-tu là ? Comment filmer l'invisible ? À part avec nous à partir de 12h55 dans la grande table des idées, Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. Ils sont tous deux réalisateurs, anthropologues pour Corto Vaclav également. Et ils seront avec nous à l'occasion de la sortie en salle le 22 juin de leur documentaire Congo, dans la deuxième partie donc de l'émission. Mais d'abord on reçoit aujourd'hui monsieur, le sociétaire de la Comédie Française, Christian Eck, mémorable bousin dans un fil à la patte de Feydeau, mis en scène par Jérôme Deschamps, Molière à cette occasion-là, du meilleur comédien, c'était en 2011. Toujours en duo, tandem, avec la plasticienne, comédienne, metteur en scène Valérie Lessort, leur spectacle La Mouche, part grand favori dans la catégorie théâtre public à la Nuit des Molières ce soir. C'est une création cette saison au Bouffe du Nord, avec une tournée un peu retardée, je vous en parle dans quelques instants.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Activation de la transmission.
C'est ta copine qui est là.
C'est pas ma copine.
Vous faites des recherches sur quoi?
Pour l'instant, je travaille sur une machine à téléporter. Où est-ce que vous rêvez d'aller?
Oh, à Saint-Tropez.
On met un téléphone à Saint-Tropez, et bisous, vous êtes en quelques secondes. À la téléportation.
Mais oui, mon chéri, mange.
Bonjour madame, inspecteur Langelade.
Ah.
Je suis chargé de l'enquête sur la disparition de mademoiselle Cholin, Marie-Pierre.
Présentation du spectacle La Mouche, c'était au Bouffe du Nord cette année. La Mouche de Georges Langelane, ancien agent secret, journaliste, déjà adapté au cinéma par le grand David Cronenberg. Ici mise en scène par Valérie Lessort et Christian Eck. Bonjour à vous Christian Eck.
Mais bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Robert, c'est le vieux garçon que vous incarnez dans ce spectacle, La Mouche, et qui vit dans une caravane avec sa mère, une mère assez... présente, possessive, un peu autoritaire à sa manière, qui essaye aussi de protéger son garçon, son vieux garçon. Et dans son garage, lui, il s'est bricolé un monde qui lui appartient et surtout une machine à téléporter. Et ça marche. Marie-Pierre, une amie d'enfance qui va passer le voir, va être télétransportée, peut-être à Saint-Tropez. En tout cas, elle s'est volatilisée et on n'arrive pas à la retrouver. Volatiliser,
c'est
oui.
C'est déjà un secret, ça, oui.
Ah oui.
Dévoiler déjà l'histoire.
Ah, mais je ne dis pas si on va ce qui va se passer. Je dis qu'un inspecteur va quand même devoir mener l'enquête.
Ça ne se passe pas bien, en tout cas.
Ah ouais. Bon, alors, peut-être reviendra-t-elle ou pas. En tout cas, l'inspecteur mène l'enquête et cherche où cette jeune fille a pu disparaître. Vous avez quand même des faux airs du coupable idéal. Ça, on ne le dira pas non plus. C'est une réadaptation libre. Côté télé, on est un peu entre Les Déchiens et l'émission de reportage Striptease. Côté ciné, on est plutôt entre Bruno Dumont et les frères Dardenne. C'est un peu le tempérament du Nord que vous avez, vous, associé à ce texte de La Mouche. Une idée, une envie d'une satire assez tendre.
Oui, alors... vous l'avez dit très justement, bien sûr, on s'est inspiré évidemment de cette magnifique histoire de La Mouche, mais on s'est aussi énormément inspiré, en ce qui concerne les personnages, à l'émission connue Striptease et l'épisode qui a fait quand même un gros carton, qui est La Soucoupe et le Perroquet. C'est-à-dire qu'on s'est fortement inspiré de ces couples de vieux garçons qui ne parviennent pas à quitter leur maman. Et c'est ce rapport mère-fils qui nous a passionnés. Et on l'a insufflé dans cette histoire de science-fiction qu'est La Mouche, qui est effectivement, comme vous l'avez très justement dit, l'histoire d'un inventeur qui construit une machine à téléporter. Et en plus, ça nous paraissait encore plus fantastique de créer une machine de ce genre dans un milieu rural. C'est-à-dire que là, on est dans une fin fond de la France ou de la Belgique ou du nord de la France. Et ce qui nous passionnait, parce que quand... La science-fiction que nous propose La Mouche n'est pas suffisante pour le théâtre. Il nous fallait une patte humaine, et ça, on l'a trouvé dans l'émission de Striptease.
Mmh. Et Striptease, c'était une série d'émissions documentaires diffusées à la télé belge,
C'est franco-belge.
Franco-belge, avec ou créé par Jean Libon. qu'on recevait notamment dans cette émission à l'occasion de la sortie de son long métrage sur cette juge. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est aussi un personnage assez fascinant. On va entrer dans votre mouche à vous, où l'humour et la poésie, Christian Eck, passent autant à travers les mots, façon De Vos, ou le corps à la manière de Laurel et Hardy ou de Chaplin. Il ne ferait pas de mal à une mouche, dit sa mère à l'inspecteur à propos de Robert, votre personnage. Comment vous l'avez pensé, votre Robert? Comment vous l'avez construit, ce personnage?
Bon, déjà, on l'a pensé à deux, avec Valérie Lessort, parce que nous l'avons adapté ensemble, et on l'a écrit de manière tout à fait simultanée, tous les deux. On l'a pensé d'abord, comme je vous disais, on a eu cette idée d'un garçon mal adapté qui frise l'autisme. Et comme on le sait, les autistes ont un côté génie, un côté mal adapté et un côté génie. Alors on a évidemment beaucoup réfléchi à deux choses. Plastiquement, qu'est-ce qu'on va faire comme transformation? Et là, c'est l'une des casquettes de Valérie Lessort, son côté plasticienne a servi. Alors en même temps qu'on écrivait, on faisait des essais dans le salon. Je me mettais à quatre pattes, on faisait des effets de déformation, enfin bon... On travaillait tout ça de front. Et l'avantage, c'est qu'on est, comme on est mari et femme, on est toujours ensemble, donc on peut travailler à n'importe quel moment. On a pensé d'abord, avant, quand je me mélange avec une mouche suite à une téléportation qui se passe pas très bien.
C'est vous qui l'avez dit. Hein.
Oui, mais ça, c'est l'histoire. En fait, ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, qui est écrite.
Je sais pas si tout le monde la connaît.
Marie-Pierre, elle n'existe pas.
Mais on comprend maintenant pourquoi vous nous dites on est à quatre pattes, etc. Oui. Parce qu'il y a cette transformation, cette métamorphose hein, de l'homme à la mouche.
Oui, alors dans l'écriture, comme ce monsieur s'est mélangé avec des molécules de mouche, tout doucement, la mouche va l'emporter et va envahir son corps. Alors tout d'abord, on a pensé, il n'y a aucune transformation physique au départ, c'est juste son caractère qui va commencer à changer. Et tout doucement, il va avoir des stigmates de mouche. On n'a pas voulu copier vraiment la mouche, mais plutôt vers le monstre.
Mais c'est quoi les traits de caractère un peu archétypaux de la mouche?
Alors la mouche.
Christian.
moi, ce qui m'a le plus fasciné, et d'ailleurs, on l'utilise dans le spectacle, c'est sa capacité. Parce qu'un vol, tout le monde voit, on voit des oiseaux voler, on voit plein d'insectes voler. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné, donc dans l'observation d'une mouche, parce que j'adore observer tous ces trucs qui sont pas pareils que nous et qui font partie de la nature qui nous entoure et qui nous inspire constamment. D'abord, c'est la manière dont elle marche, comment elle enchaîne la succession de, comment elle contrôle ses pattes. Sa manière de regarder, sa tête n'est pas mobile puisque elle fait partie prenante de son abdomen. Alors, ce qui me fascine le plus, c'est sa capacité de marcher le long d'une paroi verticale complètement lisse, sans battre des ailes. C'est-à-dire qu'elle adhère à la paroi. J'ai dû lire un petit peu des trucs de biologie pour voir comment ça se fait, mais pour moi, c'était la chose la plus intrigante. Certaines... Comme si elle n'avait aucun poids.
Certaines attitudes de Robert ou de la mouche vous ont-elles résisté?
Non, en fait, vous savez, on compare toujours des... C'est assez facile. À l'école Le Coq, que je n'ai pas faite, mais que j'ai rêvé de faire, il y avait un exercice où on me l'a raconté, où on travaille un animal, et après, on glisse vers un caractère d'un personnage. Exemple, si on travaille une mouche, comment elle se frotte les pattes, on voit ça souvent, elle se frotte les pattes d'avant l'une contre l'autre, et ben, l'acteur va essayer de s'imprégner de ce mouvement-là, et tout doucement va glisser vers une vieille dame qui trifouille dans son sac. Donc voilà, à chaque animal, il y a un caractère. Enfin, on compare souvent, il y a des expressions, il est souple comme un chat, il est... Enfin bon, voilà. Donc,
C'est marrant quand on pense que vous, Christian Eck, vous avez commencé comme comédien, fait vos débuts dans la métamorphose, non? Après Kafka,
oui,
au théâtre.
Exactement.
De poche.
Ouais. Steven Berkoff, oui, à Bruxelles, oui.
Vous interprétiez quoi?
Pardon, ah ben, Grégoire Samsa qui se transforme en insecte. Cafard. C'était pas une mouche, ça, c'était un cafard. Mmh.
On pense aussi, en vous regardant, au personnage esselé qui revit chaque jour, la même journée, de Pierre Richard dans Monsieur X de Mathilde Amet, en compétition dans la catégorie Seul en scène ce soir à la nuit des Molières. Pierre Richard, parce qu'il a, par son jeu extrêmement corporel, très visuel, ça fait partie de votre galerie d'acteurs, de votre famille de théâtre ou de cinéma qui vous a influencé.
Ben, Pierre Richard le dit lui-même, parfois il est un petit peu encombré par la parole. Il aurait pu exister comme moi, j'aurais rêvé, exister à l'époque du cinéma muet. Il peut raconter autant avec ses jambes, uniquement avec ses jambes, qu'avec des mots. Ce en quoi je me sens, et en plus, mais ça n'a rien à voir, de visage, il y a mon entourage qui me dit que j'ai une certaine ressemblance avec Pierre Richard, ce qui est flatteur parce que je trouve que c'est un très bel homme.
Les mots, ça vous manquerait pas?
Les deux, j'aime les mots aussi, mais l'amour des mots est venu pour moi plus tard. Au départ, j'étais qu'un bougeur, pas un parleur.
Sur ce jeu d'acteur très physique, quel est le vôtre, hein, une fois encore dans cette pièce La Mouche qui a été présentée au Bouffe de Nord à Paris et qui va tourner en France. Je vous donnerai les dates dans quelques instants. Évidemment, la tournée a été repoussée à cause des conditions et de la contrainte sanitaire, de l'épidémie. Retour à vos premières amours avec le metteur en scène Philippe Gentil. Il vous a initié à la marionnette. Vous avez d'ailleurs quitté sa compagnie pour rejoindre la troupe du Français en 2008. Il évoque sa direction d'acteur.
Quand je travaille avec nos comédiens, il y a une chose que j'évite absolument, c'est de leur donner l'ensemble du déroulement. Parce que s'ils savent, déjà ils anticipent. Et ça ne m'intéresse pas qu'ils anticipent. Chaque scène, je l'ai écrite avec un certain nombre de possibilités. Et en même temps, je fais un storyboard. Donc j'ai des images. En fait, la pensée et l'écriture en images est intéressante dans la mesure où elle me permet d'éviter le grand supermarché des clichés, en ce sens que l'image m'oblige à penser autrement. Je vais donner un thème aux comédiens, aux danseurs, et on va travailler pendant 3 séances, pas plus. Hein. On se donne la liberté totale. Ces comédiens vont, avec leurs propres ressources, s'emparer du thème, y résister, mais parfois vont me proposer des pistes qui s'en éloignent. Ça va m'obliger, moi, à réécrire. Bon, c'est douloureux, parce qu'on a écrit quelque chose, et puis il faut parfois le mettre à la poubelle, mais en même temps, il y a d'autres territoires qui apparaissent, c'est ça qui est passionnant.
Voilà, lui, Philippe Gentil, il est à la croisée hein, de plusieurs disciplines, à la fois les marionnettes, le clown, le mime, le jeu d'acteur, enfin, il y a toujours une dimension très très corporelle dans ses mises en scène, et très visuelle aussi. On l'entend dans la manière dont il raconte la construction de ses pièces, aussi sa direction d'acteur, il y a quelque chose de très artisanal, c'est très bricolé un peu tout ça, hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant improviser, Christian Heck, c'est pas la même chose.
Non. Donc, bon, pour moi, la rencontre avec Philippe Gentil, donc j'ai rencontré Philippe Gentil assez tard dans ma carrière, juste avant de rentrer à la Comédie Française, ça doit faire 12 ans. Pour moi, il m'a ouvert une nouvelle porte, un nouvel art qui est la manipulation, l'art de la manipulation de la marionnette. Et puis sans oublier aussi parce que il travaille en tandem également avec Mary Underwood, son épouse, qui elle dans les spectacles prenait qui est une danseuse, une ancienne danseuse, et qui elle prenait la partie plutôt chorégraphique de ses spectacles. Et ce monsieur m'a énormément apporté. Il m'a fait vraiment aimer la marionnette à tel point que maintenant dans tous mes spectacles avec Valérie Lessort, on insuffle toujours de la marionnette, parce que ce qui est passionnant dans la marionnette, c'est que la marionnette peut faire des choses que notre propre corps ne peut pas faire. Il a une capacité de souplesse que nous n'avons pas. De par son poids, il peut atteindre des vitesses autres que les vitesses de notre propre corps, et c'est un prolong pour moi. La marionnette est une prolongation d'expressivité physique. Pour l'acteur.
Et avec Valérie Lessort, c'est aussi une valse ou un tango amoureux oui. Que vous pratiquez. Je ne sais pas qui mène la danse dans ce couple à la fois professionnel et affectif. Est-ce que vous vous êtes réparti les rôles très précisément et quel tempo vous avez choisi?
On nous pose souvent la question et on a bien du mal à répondre.
Qui est le corps, qui est la tête? Évidemment, ça ne marche pas comme ça.
Je ne sais pas, on n'a pas de spécialité, on ne se répartit pas le travail. Je peux juste dire que s'il faut vraiment mettre des différences, Valérie va être un peu plus génératrice de projets, elle va plus me tirer pour démarrer un projet. Une fois que c'est démarré, mais c'est elle qui, elle a une gourmandise qui est assez exceptionnelle. Maintenant, s'il faut dire aussi des différences, c'est qu'elle va être, elle va avoir un imaginaire débridé, et moi, je vais être un peu un rabat-joie en pensant à techniquement comment on peut réaliser ce rêve. Mais à part ça, il n'y a pas de différence.
Dans La Mouche, en tout cas, vous avez un sacré coup de rein, Christian Heck. Les marionnettes qu'on a évoquées à propos de Philippe Gentil, on a pu les retrouver dans votre pièce à tous les deux, 20 000 lieues sous les mers, créée en 2016. Les marionnettes sont de fabuleux comédiens, avez-vous dit. C'était une assez belle formule. Cette idée de l'expression corporelle désarticulée qui a peut-être aussi influencé votre jeu, et on l'évoquait hein, pour La Mouche ou d'autres de vos rôles, ça passe beaucoup par le milieu du corps, hein. Comme une marionnette, par ce déhanchement, par ce coup de rein.
Ah oui, donc
c'est un centre de gravité.
Oui, c'est ça. Il faut connaître chaque marionnette a son secret. Ce qui est formidable aussi avec les marionnettes, chaque marionnette est unique. Il faut percer son secret. Il faut percer. Il faut découvrir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Il faut découvrir où est son centre de gravité, où sont ses axes. Il faut veiller à ne pas la bouger dans tous les sens, parce que plus ça bouge, moins c'est lisible. Il faut savoir friser des parties de son corps, les figer, un peu aussi comme l'acteur quand il bouge. Pour ne pas avoir un vocabulaire trop compliqué, c'est trop brouillon si on bouge tout à la fois. Une anecdote qui me plaît, quand nous avons, avec Valérie Lessort, proposé et fait 20 000 lieues sous les mers à la Comédie Française, le but du jeu aussi, c'était de transmettre la passion de la manipulation aux comédiens, à mes camarades comédiens de la Comédie Française. Et on a rencontré, évidemment, les gens qui ont fait partie, les comédiens qui ont fait partie de la distribution, étaient bien entendu d'accord avec ce challenge et étaient tout à fait d'accord pour apprendre cette technique-là. Ça les attirait. Mais il y avait quand même une réticence de mon Dieu, moi je vais être invisible et la marionnette va être visible. Est-ce que mon ego ne va pas en souffrir? Et il y avait notamment mon collègue Elliot Génico, qui faisait pas mal de manipulation avec moi dans Noir, et la première fois qu'on a eu du public et que nos marionnettes ont fait réagir le public, il s'est retourné vers moi et il a dit « c'est fantastique ».
On vous retrouvera tous les deux à la saison, pas à la rentrée, hein, mais la saison prochaine pour Un bourgeois gentilhomme de votre cru, avec Valérie Lessort, Christian Heck, et avec la Comédie Française sur une scénographie de Éric Ruff, le bourgeois de Molière, qui fait un retour en force, repris récemment par Jérôme Deschamps, bientôt par Denis Podalydès. Pourquoi cette nouvelle cote?
Ah, mais alors ça, le bourgeois gentilhomme, bien que je suis extrêmement heureux de le faire, c'est Éric Ruff qui nous l'a proposé. C'est son idée, c'est lui. D'abord, il m'a proposé de jouer le rôle du bourgeois. Quand j'ai dit, il n'était pas encore question à ce moment-là qu'on ait en charge la mise en scène. Et quand j'ai relu le bourgeois, même si c'est vrai, c'est des pièces qu'on a jouées, rejouées, rejouées.
Mais pas depuis longtemps à la Comédie Française. Hein.
Non,
c'est
depuis,
peut-être pour ça
effectivement.
Éric Ruff vous l'a proposé aussi. Oui.
Ouais. Je crois que la dernière version, c'était Jean-Louis Benoît, je ne sais plus en quelle année.
Il y a 20 ans à peu près.
Eh bien, quand j'ai lu le rôle, j'ai dit, bon sang, mais c'est un rôle qui est... C'est pour moi, j'ai besoin de le faire, ce rôle. Il me correspond vraiment magnifiquement. Et puis après, dans un second temps, Éric Ruff nous a chargé de faire la mise en scène, ce qui C'est très excitant et en même temps c'est angoissant de faire un Molière dans la maison de Molière avec des comédiens d'une telle puissance. Il faut pas les diriger. Les metteurs en scène faibles se font vite taper sur les doigts. Enfin parce qu'on a une troupe très solidaire et très en face de soi et donc là on va plus cacher derrière l'art de la marionnette. Là on est dans du Molière. Alors c'est un projet qui nous fait peur et c'est un projet qui nous excite énormément en même temps.
C'est étonnant, à vous entendre, Christian Hecq, c'est pas si évident pour un comédien de passer à la mise en scène, surtout dans sa propre maison. Il y a une légitimité à conquérir.
Oui, c'est très bizarre parce que je suis avec mes camarades. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu la maison en ayant le même statut, la même fonction, pas le même statut, la même fonction que mes amis. Que mes camarades de jeu.
Alors que là, le metteur en scène, il est un peu au-dessus ou un peu à
c'est
côté.
C'est pas au-dessus. Surtout la comédie française. Mmh. Le metteur en scène est. Il y a pas de hiérarchie. C'est pas une hiérarchie. C'est un maître d'œuvre. C'est celui qui est censé réunir tout le monde. Peut-être en dehors, il est plus chef le metteur en scène. À la comédie française, c'est différent. Les comédiens, ils sont chez eux. Le metteur en scène est invité. Et donc ça change un petit peu les rapports. C'est très bizarre, effectivement, que ce statut change. Que d'un coup, je vais dire à un tel, dis donc, tu devrais pas faire comme ça. Tu devrais plutôt faire comme ça. Alors qu'avant, j'étais juste un collègue. Et donc ça, c'est un petit peu bizarre, oui.
Midi 22 sur France Culture. Le tableau ne serait pas complet, Christian Hecq, si on n'allait pas voir un peu du côté de l'opéra. Il y eut d'abord pour vous deux le domino noir, puis l'an passé l'Ercole Amante, l'Hercule amoureux de Francesco Cavalli à l'Opéra Comique. Mise en ligne pendant le confinement dans le cadre de l'opération L'Opéra Comique chez vous, capté par Arte en novembre dernier, direction musicale Raphaël Pichon. Extrait de cet opéra que vous avez mis en scène, Christian Hecq, avec Valérie Lessort. Grand prix, musique du syndicat professionnel de la critique, hein, pour Ercole Amante. C'est tombé hier. L'opéra comique, c'était peut-être pour vous aussi, on l'imagine, à travers ces mises en scène, le pari de démocratiser un peu ce genre qu'est l'opéra. En tout cas, le rendre peut-être plus accessible. Et ça passe par quoi? Toujours par l'humour, par la fantaisie?
C'était la volonté que nous avions, Valérie Lessort et moi. Bon, d'abord, il y a quelqu'un d'important dans notre histoire qui est Olivier Mantei, qui est le directeur de l'Opéra Comique et en même temps le co-directeur des Bouffes du Nord. C'est-à-dire qu'il nous soutient déjà depuis déjà pas mal d'années et il nous fait confiance. On a toujours voulu, avec Valérie, rendre les spectacles accessibles pour le plus large spectre de public et sensibiliser les gens. D'ailleurs, Valérie fait ferme d'autres formes opératiques avec des marionnettes, par exemple, pour sensibiliser le jeune public à cet art. Elle ne fait pas uniquement que des spectacles pour enfants, mais c'est un peu notre ligne de conduite. C'est comment, par exemple, Ercole Amante, la première fois qu'on l'a lu, l'intrigue est extrêmement compliquée. Un peu alambiqué, comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire que ce n'est pas la force de cette œuvre-là. Et on a mis tout en œuvre, pour essayer de la rendre la plus compréhensible possible. Et pour ça, d'ailleurs, merci l'Opéra Comique, on a eu droit quand même, Olivier Monteil nous a quand même permis, avec les moyens qu'il fallait, à rendre ça fantastique. Fantastique de manière pour la scénographie, parce que c'était quand même une œuvre qui a été écrite pour le mariage du roi Louis XIV. Donc on sent derrière que c'est écrit. Il faut des moyens pour monter cet opéra.
Et votre complicité est telle, en tout cas, que c'est vous qui avez été appelé pour la réouverture, en tout cas Valérie Lessort, pour la réouverture de l'Opéra Comique le 27 juin, avec une reprise de son cabaret horrifique. C'était aussi un spectacle lyrique, avec beaucoup d'humour, un humour assez noir, assez grinçant.
Oui, ça avait été créé pour le Porte 8 et Olivier Monteil a décidé de le reprogrammer pour une réouverture progressive avec un public limité. Et la chose qui est amusante dans maintenant la version qu'ils vont refaire dans la salle Favart, cette fois, c'est qu'ils vont mettre le public sur scène. Et donc ils auront comme toile de fond tout le magnifique opéra comique. Et Valérie Lessort va adapter la mise en scène en fonction de cette disposition-là.
L'opéra
et elle m'a déjà raconté des trucs et ça a l'air plutôt
très alléchant. Ça sonne pas mal, l'opéra comique à Paris. Ça vous a manqué, Christian Heck, les planches, la scène, l'odeur du rideau, des coulisses
Ouais, ça m'a manqué. Le début du confinement, comme on était... Comme on travaillait beaucoup, vraiment beaucoup, parce que je devais aussi assumer ma continuité à la Comédie Française, en même temps que je tournais l'amour.
Mais à la maison, vous avez travaillé ou au théâtre?
Non, mais quand le confinement est arrivé, il est arrivé à un moment où j'avais énormément de travail et j'étais pas mécontent qu'on m'oblige à m'arrêter. Mais tout doucement, l'envie de jouer, elle revient assez vite. Ça dure pas très longtemps. Et ce qui était le pire, c'était pas le confinement pour nous. Et quand je discute avec mes camarades comédiens, c'est pareil. C'est pas le confinement qui est le plus dur, c'est le déconfinement. Parce que le déconfinement, on nous rend notre liberté. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? On peut toujours pas exercer notre art. Donc c'était un peu aliénant, ce déconfinement, pour nous.
Il reste une toute petite minute. On vous a vu aussi ou entendu à la Maison de la Radio, Christian Heck, en février dernier, pour un concert fiction autour du chat de Simenon. On vous a pas tant entendu miauler, mais beaucoup narré. Si vous deviez citer un nom, une inspiration, une influence pour nous aider à comprendre d'où vous vient aussi ce talent de conteur, ce plaisir à raconter des histoires.
Oh, on peut poser une colle. j'ai pas l'exemple de conteur. Je pourrais pas. J'aime. Les voix sont. C'est quelque chose de qui est séduisant. Je crois que ça vient des histoires racontées pour les enfants quand j'étais jeune. Il y a des voix qui sont vraiment envoûtantes. Je me souviens d'un. Je me souviens de 20 milieux sous les mers où c'était Gabin qui faisait le narrateur et en même temps le capitaine Nemo. Voilà. Un souvenir fort de voix, par exemple.
Et pas mal, hein, quand même. Merci beaucoup à vous, Christian Heck. J'ai pas toutes les dates ou pas sûr d'avoir tout compris parce que ça c'est poussé, repoussé. Mais il y a une tournée pour La Mouche.
Il y a une tournée.
Ouais, qui va recommencer en janvier. Janvier, février, mars, avril, ça c'est sûr.
Exactement.
Il y aura du Niort, du Calais, du Dunkerque.
Oui.
Notamment.
Il y aura de la Suisse, il y aura de la Belgique. Oui, oui.
Et il y aura un bourgeois gentilhomme, donc, prochainement, à la Comédie Française,
moment,
au Théâtre Marigny, parce que travaux à la Comédie.
Non. Le Marigny sera fini à ce moment-là. La première est prévue le 19 mai 2021 à Richelieu.
Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Christian Heck.